Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
What time is it? Yeah, no.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha.
We good?
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 688 du podcast Touchdown Actu. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL, la semaine 14. Et je retrouve mon compère du début de la saison. Salut Victor Roulier.
Bonjour Raoul, bonjour à tous.
Alors Victor, on a un joli programme qui nous attend puisque on va parler d'abord des Los Angeles Rams. On va se poser la question ensemble de sont-ils capables d'aller chercher les playoffs. C'est un peu le sujet de cette fin de saison, vous allez voir. Notre affiche de la semaine, c'est le match de la peur un peu entre Kansas City et Buffalo. Et puis on fera le point sur tous les pronos, les meilleures cotes de la semaine. C'est le programme habituel, vous le connaissez maintenant. Victor, est-ce que tu es prêt?
Je suis prêt.
Alors c'est parti.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
D'abord, notre sujet du jour, on vous l'a dit, on va commencer avec les Rams de Los Angeles. Pourquoi est-ce qu'on parle des Rams, Victor, aujourd'hui? Ben parce qu'ils sont à 6 victoires et 6 défaites, qu'ils sont le 8e seed en NFC aujourd'hui derrière les Packers. Et parce qu'ils ont pas mal d'arguments, alors notamment offensives, on va pouvoir y revenir, pour faire croire à un run de fin de saison vers les playoffs. Toi, Victor, qu'est-ce qui te fait croire que ça pourrait marcher pour les Rams aujourd'hui? Si tu crois que ça peut marcher, mais qu'est-ce qui pourrait faire croire aux fans des Rams qu'ils ont un bon espoir sur cette fin de saison?
Mais écoute, faut savoir que, bon, il y a 5 équipes dont on sait qu'elles vont être en play-off. Philadelphie, Dallas, donc un des deux en wild card, mais ils y seront. Les Niners et Lions, et le vainqueur d'NFC Sud, quel qu'il soit. Mais il faudra qu'il y en ait un en play-off. Du coup, il reste 2 places. Et pour ces 2 places, les Vikings, les Packers, les Rams et les Seahawks sont en 6-6.
Ouais.
Donc ça veut dire que vraiment ça se joue dans un mouchoir de poche. Et moi, en général, quand il s'agit de... dans ces courses un peu, je me pose 2 questions. Qui a le meilleur quarterback? Qui a le meilleur coach?
Ah,
pour moi, la réponse entre ces 4 équipes, donc je rappelle, hein, Vikings, Packers, Rams et Seahawks, qui a le meilleur quarterback? C'est les Rams. Pour moi, ouais, c'est incontestable. Qui a le meilleur coach? Ça se joue entre McVay et Carroll. Hein. Je ne veux pas manquer de respect à Pete Carroll. Mais
oui,
bon, les Rams sont quand même ces 2 dénominateurs communs qui font que pour moi, c'est probablement une des équipes favorites pour obtenir ses places de wild card.
Eh ben, t'as avancé 2 des arguments que j'avais notés. Sean McVay, on va pas trop parler de ça parce que c'est difficile de mesurer les intangibles d'un coach, mais en tout cas, il a le CV et l'expérience maintenant pour faire un bon run de fin de saison. Matt Stafford aujourd'hui, c'est 2768 yards lancés, 7 touchdowns, 9 interceptions. Il n'est pas encore sur ses temps de passage d'il y a 2 ans quand ils vont au bout, mais il ne tire pas cette équipe vers le bas. C'est ce qu'on... Il fait plus que ça, on est d'accord, mais on a connu des saisons plus prolifiques, on va dire, avec lui. Et pour autant, ça fonctionne. Donc là-dessus, je te rejoins. Il est un argument pour cette équipe. Autour de lui, il y a des playmakers. On peut parler de Kyren Williams, le running back, qui est quand même à 109 yards de moyenne sur les 5 derniers matchs, qui a 7 touchdowns cette saison et qui est en train de faire une remontée, je ne sais pas, mais qui est en train de vraiment trouver un super rythme derrière cette O-line des Rams, Victor.
Oui, écoute, en attaque, j'ai l'impression que tout va bien. C'est-à-dire que cette ligne est meilleure qu'attendue. Bon, c'est pas Byzance, hein. Mais
22 sacs encaissés. Pardon, je te coupe parce que t'es dessus, mais 22 sacs, c'est la quatrième meilleure totale de la NFL cette année, les Rams.
Exactement, et c'est dû à cette bonne ligne, et c'est dû aussi à un Stafford qui a l'expérience de se débarrasser du ballon quand il faut. Et tu l'as dit, au niveau des playmakers, bah, Kyren Williams, c'est un peu le facteur X, celui qui est sorti un peu de nulle part et qui est en train de booster le jeu au sol des Rams. Dans les airs, on ne découvre pas que Cooper Kupp et Puka Nacua, bah écoute, c'est quand même un duo, c'est du tout bon hein, en NFL. Et même derrière, Higby, c'est un bon tight end, Atwell, c'est un bon receveur numéro 3. Non, écoute, je trouve que cette attaque, elle a tout pour réussir. Elle a tout pour réussir et je suis assez confiant. Je trouve en plus que vraiment, il y a une montée de rythme qui est assez claire. Il trouve vraiment de bons automatismes. Et je suis assez optimiste pour cette équipe.
Tu parles de montée en puissance sur les derniers matchs. C'est victoire face aux Browns, victoire face aux Cardinals, victoire face aux Seahawks. Et avant, c'était la bye week. Donc là, effectivement, il y a cette série de trois victoires qui fait du bien. On va revenir juste après hein, sur la suite du calendrier. Mais là-dessus, c'est plutôt positif. Moi, le seul point que j'ai est à mentionner Nacua et Higby. Aujourd'hui, ils sont un peu blessés. Et c'est peut-être la seule chose qui peut éventuellement enrayer la machine. C'est s'il y a des petits bobos. Cooper Kupp qui a raté un peu de match aussi en début de saison. Voilà, il faudrait que tout le monde arrive à rester en forme. Mais si c'est le cas, j'y crois. En défense, on peut pas occulter non plus complètement Aaron Donald, même si bah voilà, il est loin de ses standards habituels, mais il met quand même 6 sacs cette saison, 13 plaquages pour perte. Tu peux pas ne pas le compter quand tu parles de Los Angeles et de la défense des Rams.
Bien sûr, je veux dire, qu'il ait une perte statistique, à un moment, il est plus tout jeune,
oui.
Et c'est pas étonnant, mais tous les defensive tackles quasiment de la ligue rêveraient d'avoir les stats qu'il a actuellement à son âge. Je veux dire, il faut... Non, mais tu vois, si on s'est tellement habitué à Aaron Donald, un des 3 ou 5 meilleurs défenseurs de l'histoire, que parfois on en oublie de comparer au reste. Mmh. Et il continue à être double-teamé tous les snaps, oui. C'est-à-dire qu'il y a 2 joueurs sur lui et pas un seul. Et je trouve que globalement, en fait, tout le monde va bien dans cette équipe. C'est-à-dire les cornerbacks qui sont Akilah Witherspoon et Derrion Kendrick, donc des joueurs dont on n'attendait pas forcément, bah, ils font le travail. Au niveau des safeties, il y a beaucoup d'expérience, ça fait le travail aussi. Au niveau des linebackers, Ernest Jones prouve semaine après semaine qu'il est un des meilleurs à son poste, bien qu'il soit quand même très sous-estimé selon moi. Écoute, non, cet effectif, il est complet. Encore une fois, il est bien coaché. Et du coup, je trouve qu'il tire le meilleur.
Alors, on va se projeter un petit peu. La suite du calendrier pour les Rams. Ils jouent chez les Ravens cette semaine, puis ils reçoivent Commanders et Saints. Derrière, ils jouent chez les Giants et ils finissent chez les 49ers. La question, elle est simple. Est-ce que ça va au bout ou pas? Au bout, c'est donc les playoffs. Et je l'ai mis tout à l'heure sur Twitter, mais j'ai joué un petit peu avec la machine à prédiction que vous pouvez mettre sur ESPN. Vous faites tous les pronos des matchs restants et puis ça vous dit le classement. J'anticipe un petit peu du coup sur la réponse. Moi, même s'ils perdent face aux Ravens et face aux 49ers, avec 3 victoires, je les vois passer devant les Seahawks. Et donc, je les vois gratter le 7e seed en NFC. Ça me paraît jouable à 9-8 d'y arriver. Est-ce que tu partages cet avis?
Je pense que sur les 4 équipes dont on a parlé, les 2 qui arriveront à avoir un bilan positif passeront en wild card. Et je vais te dire, les Ravens, cette année, ils ont eu des trous d'air à des moments où on ne s'y attendait pas forcément. Je me souviens du match face aux Colts, je me souviens d'autres matchs comme ça. Si les Rams battent les Ravens, je ne tombe pas de mon siège. Mais comme tu l'as dit, même s'ils perdent logiquement contre les Ravens et les Niners, il y a encore la place. Donc, Et tu sais, les Niners en dernière semaine, en plus. Attendons de voir ce qui se passe, parce que si les choses sont déjà figées et que, par exemple, ils ne sont pas tête de série numéro 1, ouais. Bah, du coup, ils peuvent aussi reposer les titulaires, tu vois.
Ouais.
On ne sait pas ce qui peut arriver dans une dernière semaine.
Non, c'est bien vu. Donc, effectivement, il y a ça. Et ça veut dire que moi, je vois même les Packers réussir à prendre un sixième seed, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, mais les Packers, en décembre, pour l'instant, c'est invincible. Et je parle littéralement. Mais donc, voilà. Pour moi, ça le fait. Et cette équipe des Rams, s'ils finissent septième, ils joueraient a priori les Eagles. Ce qui n'est pas ce qui est le plus simple, mais on aura le temps d'en reparler. Voilà pour notre petit point débat, si on veut, du jour. Les Rams en playoff, c'est un oui pour nous deux. Nous, on passe à l'affiche de la semaine après un jingle. Alors, notre affiche de la semaine, ce n'est pas celle qu'on pourrait attendre, puisqu'il y a évidemment le match de dimanche entre les Eagles et les Cowboys, mais c'est deux équipes dont on a beaucoup parlé récemment. Et donc, on voulait plutôt parler du match qui va opposer les Chiefs de Kansas City à 8-4 face aux Bills de Buffalo à 6-6, qui est plutôt le match que je qualifierais de... J'ai qualifié dans l'intro de match de la peur, parce que c'est peut-être des équipes qu'on attendait, alors, entre guillemets, mieux que ça. Les Kansas City Chiefs sont premiers de leur division, mais... Il y a du mieux, et en fait, je vais te donner une stat qui est plutôt parlante, c'est que les deux équipes sont à 3 défaites sur les 5 derniers matchs. C'est peut-être pas le rythme qu'on attendait. Qui, selon toi, Victor, a le plus à perdre entre ces deux équipes?
Oui, juste une petite parenthèse.
Ah oui.
Eagles, Cowboys, le truc, c'est que l'équipe qui perd, éventuellement, elle perd la tête de série numéro 1, ce ouais. que tu veux, mais ils seront en play-off quoi qu'il arrive. Là, aujourd'hui, l'enjeu, il est maximum pour ce Chiefs-Bills. Parce que les Bills, s'ils perdent, peut-être qu'ils disent au revoir au play-off. Parce qu'on rappelle quand même qu'en plus des 4 champions de division, aujourd'hui, il y a 4 équipes à 7 victoires, 5 défaites en AFC. Il y a les Steelers, les Colts, les Browns, les Texans. Donc, s'ils perdent, c'est potentiellement adieu au play-off. Au niveau des Chiefs, qui sont habitués aux têtes de série numéro 1 et 2, deux vraiment étant le maximum, s'ils perdent, ils peuvent descendre tête de série numéro 4. Donc l'enjeu de ce match, il est colossal. Après, quelle équipe a le plus à perdre? Pour moi, c'est les Bills. Parce que les Chiefs, normalement, ils gagneront leur division. Je vois pas comment ça peut être autrement. Mais les Bills, là, ils sont littéralement dos au mur.
Tu sais que les Bills, aujourd'hui, ils sont 10e seed en AFC. Les Chiefs, oui, ils sont première division, mais attention, entre guillemets, Denver n'est que 2 matchs derrière. Alors, j'y crois
oui,
pas
non,
du tout,
mais,
hein, mais voilà.
Mais on est d'accord. On est d'accord que c'est pas non plus. C'est pour ça que je dis ce match a un enjeu qui est bien supérieur.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, on a deux équipes qui jouent gros.
Ouais, on est d'accord. Histoire marrante entre ces deux équipes-là, tu te souviens comment les Chiefs avaient drafté Mahomes en 2017? Un expert de la draft.
Ils le draftent en 10, bah, ils trade avec les Bills, justement.
Ils trade avec les Bills, ouais. Exactement. C'était ouais. la petite histoire entre ces deux franchises. Question classique quand on commence la preview d'un match. Quel est ton match-up préféré? Quelle attaque contre quelle défense?
Oh bah, pour moi, là, c'est assez évident. Ce que j'ai envie de voir, c'est l'attaque des Bills contre la défense des Chiefs. Parce que les Chiefs, aujourd'hui, c'est une des meilleures défenses de la Ligue. C'est l'attaque qui peine. On y reviendra, mais c'est l'attaque qui peine. La défense, elle fait son travail dans toutes les catégories statistiques. Elle est top 5. Et cette attaque des Bills, elle est, on va dire, à géométrie variable de semaine en semaine. Mais on a vu, par exemple, face aux Eagles, ils perdent 37-34. Bon, c'est pas particulièrement la... L'attaque qui doit être pointée du doigt, ils mettent 32 points aussi aux Jets, je crois. Et mine de rien, bah, ils sortent d'une semaine de repos. Donc, ils vont avoir eu le temps de concocter un plan offensif vraiment sur mesure. Écoute, moi, vraiment, cette attaque des Bills, c'est ce qu'elle est capable de prendre dessus sur cette escouade incroyablement homogène des Chiefs. Pour moi, c'est l'enjeu numéro un.
La défense de Kansas City cette année, pour info, c'est 17 points accordés par match, moins de 300 yards, en l'occurrence 297, et 39 sacs réussis. Ils doivent être 5 ou 6e en NFL. Donc effectivement, c'est une armada défensive de très haute voltige. Côté de Buffalo, est-ce qu'on a perdu trop de joueurs importants peut-être ? Est-ce qui expliquerait que la défense n'est pas au niveau de ce qu'on attendait ?
Ben oui, la blessure de Matt Milano et de Tre'Davious White a fait très mal. On sait malheureusement que les safety Hyde et Poyer, bon ben maintenant ils sont destinés à jouer blessés quasiment jusqu'à la fin de leur carrière. Si je suis un peu...
Pardon, c'est quoi safety Hyde et Poyer ?
Les deux safety, Carlos Hyde et Jordan Poyer, pardon.
Ah putain, je croyais que c'était un terme technique, j'étais à, mais attends, je comprends
non,
pas.
Non, pardon, je vais un peu trop vite en besogne, tu as raison. Mais donc, voilà, ils sont destinés à jouer blessés quasiment toute leur carrière. Et il y a un front seven, il y a une ligne défensive qui a beaucoup de joueurs, beaucoup de talent et qui arrive à être vraiment décisive. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la ligne arrière, qui est historiquement la force de la défense des Bills, est aujourd'hui devenue leur faiblesse. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs du côté de Kansas City pour venir exploiter ces faiblesses sur le jeu long et sur le jeu vertical.
Eh ben, disons un mot, justement, pour finir un peu le tour d'horizon sur cette attaque des Chiefs. Elle est un peu moins forte que ce qu'on attendait. Est-ce qu'elle est trop, encore une fois, Tyreek Hill, pas du tout, n'importe quoi. Travis Kelce, mais il y a des cas et des bref et des T. Travis Kelce dépendante.
Pas que. J'ai l'impression que le problème il est plus profond que ça, parce qu'en fait il y a du jeu de course avec Pacheco, il y a Kelce qui est là en soupape sécurité, mais même si t'as un bon tight end, il te faut quand même des bons receveurs, quoi. Et aujourd'hui, bon, il y a Rashee Rice qui monte en puissance, c'est vrai, mais le reste est quand même affreusement moyen. Et on le voit, en fait, semaine après semaine, cette attaque de Kansas City, elle ne fait plus peur. Elle ne fait plus peur. En plus, les tackles, quand ils sont sur le terrain, sont quand même très moyens. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est un peu en train de prendre le haut et qui survit parce que Mahomes, c'est Mahomes, quoi. Mais tu mettrais n'importe quel quarterback moyen, il finirait les matchs à 7 points. Quoi.
Ouais, mais tu l'as dit, Mahomes, c'est en fait, on ne pourra jamais l'occulter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Donald, tu ne peux jamais occulter Mahomes non plus. D'ailleurs, fait intéressant, depuis que Patrick Mahomes et Josh Allen jouent tous les deux en NFL, Kansas City est l'équipe qui gagne le plus de matchs après une défaite. En l'occurrence, ils ont 17 victoires, 3 défaites, et Buffalo est la deuxième à cette statistique. Donc, ces deux équipes qui rebondissent bien, selon toi, Victor, laquelle rebondit le mieux dimanche ? Qui va gagner ce match entre Buffalo et Kansas City ?
Eh bien, écoute, je vais aller avec l'équipe qui a le plus à perdre. Je vais aller avec Buffalo, qui, comme je l'ai dit, sort de bail quand même. Donc, devrait être physiquement plus frais que l'adversaire. Et du coup, je les vois faire le match un peu surprise et venir remporter ce match.
C'est pas impossible. Il y a le pass rush de Buffalo est quand même meilleur que celui de Kansas City, qui est déjà très bon, puisqu'ils sont à 41 sacs, ils sont 3e en NFL. Et il y a 21 pertes de balles provoquées. Donc, c'est vrai que tous ces éléments-là peuvent perturber l'attaque de Kansas City, qui n'est pas au top. Moi, je vais quand même prendre Kansas City. Ça se joue là-bas. Et puis j'ai du mal à imaginer les Chiefs perdre une deuxième fois, donc je vais y aller avec Kansas City, mais ouais, c'est une affiche qui promet, quoi. On vous l'a pas choisi pour rien non plus.
Non,
c'est ça. Et ben voilà pour notre affiche, nous on passe au prono et c'est après un.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special!
It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong.
Yes, sir.
We're gonna work on three. One, two, three, work!
Et le point sur les points d'abord, je ne suis plus dernier. C'est bon ça, malheureusement Grégory enchaîne les déconvenus.
Et non, mais Grégory c'est du tanking, c'est du tanking. Il faut le dire là depuis 3 semaines, il fait volontairement n'importe quoi là. Il veut le premier choix de la draft, c'est clair.
Il n'y a pas de tanking dans les pronos, tu le sais Victor. Ça n'existe pas. Mais donc oui, c'est malheureusement 6 points pour Greg en semaine 13. Alain, toi, Victor et moi, on fait 9. Tandis que Raphaël et Lucas marquent 10. Lucas qui refait à nouveau un top score et qui reprend l'avantage. Victor, qu'est-ce qui se passe ?
Il n'y a qu'un seul point d'écart. La saison est longue. J'ai confiance dans mon équipe.
Bien sûr.
Va trouver les solutions, blablabla.
Une semaine après l'autre. Ce qui donne au total Lucas en premier, donc il reprend l'avantage avec 127 points. Victor, tu l'as dit, tu es un point derrière à 126. Et Alain n'est qu'un point derrière toi à 125. Donc un trio de tête là qui commence à se dessiner. Raphaël qui se rapproche du podium avec 123. Moi j'ai un petit peu plus de chemin à faire puisque je suis à 117 et Greg est à 114. Petite stat, puisqu'on aime bien les stats, on est en NFL. C'est le plus gros écart de l'année entre le premier et le dernier. 13 points d'écart. Donc, long chemin en vue pour Grégory qui continue de tenter chaque semaine. J'espère pas que cette semaine sera la bonne, c'est pas vrai, il faut que je prenne plus d'avance. On se lance dans les pronos de tous les matchs de la semaine 14, c'est parti. Jeudi à vendredi à 2h15 du matin, le Thursday Night Football entre les Steelers à 7 victoires et 5 défaites et les Patriots à 2 victoires et 10 défaites. Bon, l'effet du fusible Matt Canada qui n'aura duré qu'un match à Pittsburgh, mais vu ce qu'on a vu des Pats, Victor, bon. Ça a l'air écrit d'avance, je sais pas, mais ça a l'air plutôt acquis pour les Steelers.
Écoute, les Patriots qui ont fait l'exploit d'être la première équipe depuis 1938 à encaisser 10 points au moins 3 semaines d'affilée et à perdre des 3 matchs.
Ça, c'est énorme.
C'est quand même assez sensationnel, quand même. Oui, les Steelers vont gagner parce qu'il y aura un ou deux bons runs de Najee Harris, une ou deux belles passes. Ils vont gagner 3-0 sur un field goal à la dernière seconde.
Tu
vois le moment où Alain va envoyer un message jeudi matin. Est-ce que quelqu'un veut résumer ce match et qu'il va y avoir un long silence et qu'Alain va devoir se lever pour résumer ce match?
Oh, bah franchement, si c'est 3-0 à la dernière seconde, pas besoin de se lever trop tôt. Hein.
Il sera simple à résumer.
Oui.
Steelers.
En un mot, Bailey Zappi, qui devrait être titulaire, bonne, mauvaise décision?
Écoute, moi j'adore Zappi, j'adorais en université, mais force est de constater que l'attaque est dysfonctionnelle, quel que soit le quarterback, on l'a vu la semaine dernière. Donc je pense que globalement, tu pourrais mettre Mac Jones, Bailey Zappi ou ma grand-mère, le résultat serait à peu près le même.
Oui. Bon, bah, écoute, j'espère que ta grand-mère sera draftée l'an prochain, ça pourrait donner des trucs sympas. Match de dimanche à 19h, on enchaîne avec le Red Zone. Falcons, 6 victoires, 6 défaites. Buccaneers, 5 victoires, 7 défaites. Match hyper important pour ces deux équipes-là qui se jouent la tête de la division. Mike Evans qui continue de faire une super saison. En face, on a quand même Jesse Bates, le safety, qui a 5 interceptions et 3 fumbles forcés. Affiche qui n'est pas simple à pronostiquer quand même. Moi, j'ai mis les Falcons parce qu'ils sont à domicile, mais je ne suis pas immensément convaincu. Qu'en est-il de ton côté, Victor ?
Pareil, ces matchs de division NFC Sud, ça va être terrible. Ça va être terrible chaque semaine. C'est des 50-50, il faut lancer une pièce. De toute façon, les Falcons ont déjà coûté 9 points cette saison en 13 semaines. Donc, je ne sais plus quoi faire avec eux. Je suis parti avec les Buccaneers. Mais honnêtement... Les deux sont défendables, il n'y a pas de...
Ouais, bon, on ne peut pas épiloguer là-dessus, il n'y a pas beaucoup plus à en dire. Ravens, 9 victoires, 3 défaites. Rams, 6 victoires, 6 défaites. C'est le match qui sera sur 6play avec Alain, Mathieu, Raphaël, Masmejean au micro. C'est The Original 2, comme on les appelle dans la rédac. On a beaucoup parlé des Rams, là, en début d'émission, en bien d'ailleurs. Mais sur ce match, bon, je pense que la marche est trop haute, et pas la marre. Désolé,
je ne vais pas rebondir là-dessus.
Mais, non, je ne rebondis pas.
Mais pour le coup, honnêtement, je ne suis pas aussi catégorique. Je ne suis vraiment pas aussi catégorique. J'ai dit les Ravens, ils nous ont habitués à se planter... dans des semaines qu'on n'attendait pas cette saison, et ils affrontent des Rams en pleine confiance. On rappelle que les Ravens, ils ont perdu contre les Steelers, contre les Colts. Enfin, c'est des matchs sur le papier, tu vois. Ils devaient les remporter. Donc, je vais partir sur les Ravens, notamment parce que je n'ai pas envie de perdre de points par rapport aux autres qui font les paris, j'avoue. Mais pour autant, honnêtement, je ne suis pas du tout fermé à imaginer une victoire des Rams.
Ok, ok. Bears, 4 victoires, 8 défaites. Lions, 9 victoires, 3 défaites. Moi, là, je suis beaucoup plus fermé à imaginer une victoire des Bears. C'est quand même largement dans les cordes de Détroit. Et il faut aller chercher le meilleur seeding possible en playoff. Sachant que c'est le match retour d'il y a 2 semaines. Les Bears avaient fait mieux que résister. Ils avaient perdu seulement 31-26. Est-ce que les Lions sont capables de remettre ça sur ce match victoire?
Écoute, les Bears avaient même... perdu ce match quasiment de manière miraculeuse, hein, puisqu'ils avaient 10 points d'avance à 4 minutes de la fin ou quelque chose comme ça. Donc honnêtement, 11 points d'avance même. Honnêtement, c'est des matchs division ne sont jamais faciles, mais on peut penser que les Lions ont retenu la leçon et qu'ils ne feront pas d'excès de confiance cette fois-ci.
Oui, on le leur souhaite. Donc Lions pour tout le monde. Bengals 6 victoires, 6 défaites. Colts 7 victoires, 5 défaites. Si on m'avait dit qu'il y aurait ces fiches pour ces deux équipes-là en semaine 14, j'aurais pas cru d'un côté comme de l'autre. C'est quand même 4 victoires de suite pour Indianapolis qui est en train de réaliser une sacrée performance. En face, Jake Browning a fait du bon boulot face à Jacksonville. Et ça donne une affiche assez serrée au final. Victor, qu'est-ce que tu en pronostiques pour ce match?
C'est très compliqué. Je vais aller avec la moustache de Gardner Minshew parce que je pars du principe que Browning a fait un très bon match, mais qu'on ne peut pas tellement gager sur le fait qu'il soit constant. Ça sera peut-être le cas, mais aujourd'hui, c'est un peu risqué. Tandis que Gardner Minshew, bon, on sait, hein, Gardner Minshew, ça peut être le bon ou le mauvais Gardner Minshew, mais normalement, il y a un peu plus de certitude au niveau d'équipe. Donc, je vais aller vers eux.
Pareil, et moi, c'est la dynamique du moment aussi qui me fait penser que ces Colts ont une vraie carte à jouer dans ce match-là. Les Browns à 7 victoires et 5 défaites face aux Jaguars à 8 victoires et 4 défaites. Attention au piège de Cleveland pour les Jags, surtout sans Trevor Lawrence. Alors, on ne sait pas encore s'il jouera ou pas, mais bon, quand bien même il ne devrait pas trop rater de match, celui-ci me paraît compliqué.
Non, apparemment, celui-là, il va le louper,
ouais. Ouais, bon, surtout que la défense de Cleveland est encore une des, voire la plus hermétique de NFL. Et les Jaguars ne peuvent pas trop se permettre de rater de match parce qu'il y a Houston et Indianapolis qui toquent à la porte. J'en ai parlé tout à l'heure, Houston, Indianapolis et Jacksonville, les trois pourraient aller en playoff cette saison. Si on m'avait dit que c'était la FC Sud qui allait truster les places, ça m'aurait fait bien rigoler. Mais donc voilà, il y a des enjeux sur ce match pour Jacksonville et les Browns, c'est pas une gageure. Donc moi j'ai mis Jacksonville, mais s'il n'y a vraiment pas Lawrence, c'est possible que je change mon prono, Victor.
Moi je mets Cleveland. Du coup, partant du principe qu'il n'y aurait pas Lawrence, je pense que la défense de Cleveland va faire passer du coup un mauvais quart d'heure à l'attaque des Browns.
CJ Beathard. Tu veux dire à l'attaque des Jaguars?
Oui, défense des Browns va faire passer un mauvais quart d'heure à l'attaque des Jaguars.
Et donc CJ Beathard, le quarterback pour les Jaguars, si Lawrence ne joue pas. Ouais, comme dit, moi je change mon prono si jamais il n'y a pas Trevor Lawrence, hein, parce que bon. Qu'est-ce qu'on a après? Les Saints à 5 victoires et 7 défaites face aux Panthers à 1 victoire et 11 défaites. Bon, je suis désolé pour nos amis les Panthers, mais je vois moins l'intérêt de passer trop de temps sur leur match cette année. Les Saints avaient gagné en semaine 2, ils devraient gagner là aussi, quand bien même il n'y aurait pas Derek Carr.
Ils devraient, mais ça serait tellement l'explosion ultime des Saints. Tu sais, le match où Jameis lance 4 interceptions.
Oh oui.
Tu vois, dont 2 pick six. Et ils réussissent à perdre match. On sait, hein, Jameis, Saint Jameis généreux, capable de tout. Hein.
Bien sûr.
Vraiment, mais bon, évidemment, sur le principe, je pars sur les Saints.
Mais si c'est vraiment Saint Jameis le généreux, c'est 4 interceptions, mais 5 touchdowns. Et donc, il gagne au bout.
Oui,
et
ça, c'est oui, incroyable. Il est capable de tout faire. Ouais.
C'est vraiment incroyable. Jets, 4 victoires, 8 défaites. Texans, 7 victoires, 5 défaites. Moi, je suis toujours autant fan de Houston cette saison. Ils ont l'air d'accuser un peu le coup là. Récemment, il y a peut-être un peu moins de rythme, mais ça continue de tenir. Alors que du côté des Jets, bon, on tient plus du tout, on tient plus rien. C'est quand même un test intéressant pour CJ Stroud, cette défense aérienne, Victor.
Oui. Ah ben, bien sûr, la défense des Jets n'est jamais à prendre à la légère. Donc ça sera pas, ça sera jamais un match facile. Pour autant, là, les Jets sont tellement dans une sorte de tourbillon médiatique où là maintenant, ça dit Zach Wilson ne veut pas jouer, mais en fait, il veut jouer, mais vous avez rien compris.
Et Aaron Rodgers le défend.
Et ils vont encore changer de quarterback et tout. Franchement, ça ça ressemble vraiment à l'équipe qui est en train de s'autodétruire.
Est-ce que c'est pas le truc le plus Jets qui pouvait arriver finalement?
Ah bah c'est l'histoire des Jets depuis 50 ans. Ouais. Ouais.
C'est ça. Donc Texan pour tout le monde?
Oui.
Dimanche à 22h05, on a un succulent Riders à 5 victoires, 7 défaites face aux Vikings à 6 victoires et 6 défaites. Pourquoi je trouve pas mon mot? Synergie, oui. Deux synergies totalement similaires puisque les deux sortent de bye week. Et les deux avaient perdu les deux matchs d'avant. Donc, à voir laquelle est capable de mieux rebondir ensuite. Intéressant, c'est les deux équipes les moins pénalisées de la Ligue cette année. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais surtout, la vraie info, c'est que Justin Jefferson pourrait revenir du côté des Vikings. Et moi, c'est pour ça que je vais jouer Minnesota. Victor.
Moi, je vais jouer Minnesota parce qu'encore une fois, meilleur coach, meilleur playmaker. Et je me dis, ils ont une semaine pour se préparer. Normalement, ils devraient s'en sortir.
Ouais, Las Vegas aussi, ils ont une semaine pour se préparer.
Oui, mais ils n'ont pas les mêmes coachs et pas les mêmes playmakers.
Ça, c'est sûr. 49ers, 9 victoires, 3 défaites. Seahawks, 6 victoires et 6 défaites. San Francisco qui reste sur 4 victoires d'affilée face aux Seahawks, dont une en playoff. Et vu les formes du moment, je vois mal comment ça passe pas à 5 victoires dimanche.
Ah, match de division à l'extérieur, tu sais jamais, mais... La logique voudrait qu'ils continuent le mode rouleau compresseur tel qu'ils le font actuellement, oui.
Il y avait eu 31-13 il y a 2 semaines pour San Francisco à Seattle au moment de Thanksgiving. Les Niners qui peuvent se qualifier d'ailleurs en playoff si jamais soit Green Bay, soit Minnesota perd et d'autres scénarios improbables avec des matchs nuls. Mais en l'occurrence, pour San Francisco, une victoire et une défaite de Green Bay ou Minnesota devrait suffire. Dimanche à 22h25, les Chiefs 8 victoires, 4 défaites face aux Bills, 6 victoires, 6 défaites. On en a parlé tous les deux. Je prends les Chiefs, tu prends les Bills, je crois.
Oui.
Oui. Et l'autre énorme affiche qu'on ne pouvait pas manquer cette semaine, vraiment, quel plaisir d'avoir du football de si haut niveau à une heure décente. Chargers, 5 victoires, 7 défaites face aux Broncos, à 6 victoires et 6 défaites. J'en peux plus. J'arrive pas à croire qu'on ait une moins bonne fiche que Denver, ça me flingue. Mais bon, et j'ai très très peur que Los Angeles passe derrière Las Vegas et finisse dernier de cette division. Alors après tout le mal que j'ai dit des Raiders et des Broncos en intersaison, enfin. Bon, heureusement il y a Khalil Mack qui tire à peu près la baraque du côté de Los Angeles. Ça c'est une source d'espoir, Victor.
Oui, après, c'est quand même une équipe qui est censée avoir une des meilleures attaques de la Ligue et qui a mis que 6 points en Patriots.
Non, mais on n'est pas obligé de parler de ce match.
Mais moi, même s'ils ont perdu la semaine dernière contre les Texans, je trouve que les Broncos sont sur une bonne dynamique. Donc, je vais aller sur les Broncos.
Ah ben, moi, si j'étais pas partisan, j'aurais pris les Broncos. Hein. Juste, voilà, j'en ai marre de pronostiquer contre les Chargers parce que sur le moment, c'est pas agréable. Donc, je vais prendre les Chargers, mais... Pour te dire, hein, Grégory Richard a pris les Chargers.
Ah oui, donc t'as perdu.
On en est là. Le karma te retrouvera, Victor.
Oui, oui.
Dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin, c'est le Sunday Night Football. C'est le match qu'attend toute l'Amérique, forcément, entre les Cowboys à 9 victoires et 3 défaites et les Eagles à 10 victoires et 2 défaites. Victor, je vais être très direct. Je ne me vois pas pronostiquer contre Dallas à domicile cette saison. Ils ont mis 55-7 à leurs adversaires dans les quatrièmes quart-temps des trois derniers matchs. 55-7. C'est beaucoup.
Écoute, c'est le plus logique. En plus, historiquement, les Eagles réussissent pas forcément incroyablement à Dallas. Je vais pronostiquer Dallas aussi.
Oh,
je serais très heureux de perdre un point, évidemment.
Oui.
Mais je, disons que si je me mets dans une vision neutre, ça me paraît être le plus logique.
Ce qui est beau, c'est que tu arrives à te mettre dans une vision neutre quand on parle des Eagles. Et tu oui. as changé, Victor. Bravo. Pour le coup, tu sais quand te remonte le dernier doublé pour un titre de NFC Est, parce que en l'occurrence là, les Eagles sont en tête de la division.
2003-2004.
Bravo, c'est exactement ça, 2004.
C'est depuis 2004, il n'y a pas eu une équipe qui a gagné deux fois la division d'affilée.
Et je te donne cette stat parce que effectivement, ça va se jouer entre ces deux équipes-là et que si les Cowboys gagnent, les deux seront à égalité et Dallas pourrait revenir devant. Donc attention, il y a une belle course entre ces deux équipes jusqu'à la fin de la saison et ce match est évidemment clé pour ça. D'ailleurs, les deux équipes ont une chance d'aller jouer les playoffs dès ce match-là. Je me remets l'article de Touchdown Actu sous les yeux. Je vous encourage à aller faire un tour puisque en gros, Philadelphie peut se qualifier s'il gagne. Et qu'il y a pas mal d'autres équipes qui perdent, comme Seattle, les Rams, Green Bay ou Minnesota. On va garder les trucs avec match nul hors de l'équation pour l'instant. Et Dallas, en gros, s'ils gagnent et que pareil, il y a un paquet d'équipes qui perdent en même temps, donc c'est pas l'une ou l'autre, c'est vraiment toutes qui perdent, eux peuvent se qualifier aussi. Donc allez voir les détails sur le site, mais il y a des vrais enjeux pour ces deux équipes-là d'aller chercher une place en play-off, comme on l'avait dit, avec San Francisco. Dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, il y a le Monday Night Football entre les Dolphins à 9 victoires, 3 défaites et les Titans à 4 victoires et 8 défaites. Et en fait, il n'y a rien à voir, hein. Circuler, victoire de Miami, dormez bien cette nuit-là. Ou alors, Victor, regardez l'autre match, puisque la NFL a décidé de mettre deux Monday Night Football en simultané. C'est diablerie, mais c'est comme ça.
Ah, ils sont simultanés, ils sont même pas l'un après l'autre.
Bah, moi, c'est ce que j'ai, retenu. Ou alors, j'ai lu trop vite, mais attends, je me remets tout de suite sous les yeux.
Ah non, t'as raison, il commence exactement à la même heure.
C'est 2h15. C'est le red zone du Monday Night. En un mot, Dolphins, Titans.
Écoute, les Dolphins sont sur une belle dynamique. Ils ont prouvé que cette année, face aux équipes en bilan négatif, ils les écrasent, ils leur laissent même pas sortir la tête de l'eau. Donc, je vais continuer à parier Dolphins.
Heureusement que je t'ai dit en un mot. Hein, parce que, bref. Oui. Donc, Dolphins pour tout le monde. En revanche, Giants, Packers. Les Giants sortent de bye week. Les Packers viennent de battre les Chiefs et les Lions. Et les Packers, c'est ce que j'ai dit au tout début du podcast, ils sont sur 16 victoires d'affilée en mois de décembre. Ça, c'est quand même une stat de fou malade. En face, il y aura Tommy DeVito aux commandes pour les Giants. Moi, j'avoue que les Packers en décembre, c'est un truc qui fait assez marrer. Et on en parle depuis plusieurs semaines déjà. Et avec Raphaël, on en a parlé la semaine dernière. Green Bay est sur une énorme dynamique, notamment en attaque. Je les vois bien continuer là-dessus, sur cette affiche, Victor.
All you need is love. Moi, je vais aller sur les Packers aussi. Décembre, ils adorent. Janvier, ils aiment un peu moins. Mais pour le coup, je trouve que la dynamique est énorme et Giants sont quand même trop limités.
Oui.
Donc je vais partir sur les Packers après. Avec les Giants, ces dernières semaines, on a vu des belles choses quand même, mais les Packers sont ultra favoris.
D'ailleurs, j'ai vu que la série des 16 victoires d'affilée en décembre des Packers avait commencé au MetLife Stadium. Il me semble que c'était contre les Jets à l'époque. Au repos, on aura les Commanders et les Cardinals. Merci de nous laisser tranquilles cette semaine. Encore que c'est moins pire que les équipes qui étaient en repos la semaine dernière.
Les Cardinals, ouais, ça, avec Kyler Murray, c'est sympa à regarder quand même.
Je suis taquin. Et surtout, c'est la dernière semaine où il y aura des bye week. Il n'y en aura plus ensuite. Donc, profitez-en bien. Nous, on enchaîne avec les meilleures cotes juste après le dernier jingle. On l'a dit, les meilleures cotes de la semaine, c'est comme d'habitude avec notre partenaire Unibet. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site en passant par Touchdown Actu. Il y a les liens de partout pour le faire et on les remercie d'être à nos côtés une saison de plus. Qu'est-ce qu'on a au programme cette semaine, Victor? Qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que déjà tu as réussi à lancer Unibet
oui,
sur ton ordi?
Oui.
Ouh, incroyable.
Non, mais maintenant j'ai la logique, c'est que quand tu commences à parler de Monday Night, je lance une Unibet, donc le temps que ça mouline, tu vois, ça finit par arriver.
Pas mal.
Écoute, globalement, les favoris sont bien favoris.
Oui.
Du coup, j'ai envie de m'attaquer aux semi-favoris. Par exemple, les Buccaneers à 1,95. Alors certes, les Falcons sont favoris, mais tu vois, pour moi, c'est un 50-50.
Et moi, j'allais même te dire, autant je ne veux pas parier contre, pronostiquer contre eux, mais alors parier les Broncos face aux Chargers, à 2,03 pour les Broncos, moi, je n'ai pas de problème.
Je suis d'accord. Buccaneers, Broncos, on est pas mal, il nous en faut un troisième.
Compte-là, est-ce que je te dirais presque les Bills face aux Chiefs, moi, à 2.
Moi, ça me va très bien.
Parce que je regarde le reste, ou alors si on prend un favori qui est... Il y a le match entre les Bengals et les Colts, il est compliqué parce que les Colts sont à 1,75, les Bengals à 1,78. Et après, si on regarde des favoris qui ont une cote qui est un peu plus élevée qu'un 1,20 ou un 1,30, bah, il n'y en a pas beaucoup.
Donc, non, c'est mais pour moi, ça que... me va. Écoute, Buccaneers, Broncos, Bills.
C'est... Allez, eh ben on fait ça. C'est pas mal parce que les Bills sont à 2. Et donc, si vous mettez les Bucks à 1,95, les Broncos à 2,03 et les Bills à 2, pour une mise de départ de 5 euros, vous avez une cote de 7,92 et donc des gains potentiels de 39,59, on peut dire 40. Ce qui est bien. Et on peut faire. Alors, dans le YOLO, il y a des trucs sympas.
D'accord.
Puisque le YOLO, moi, je mettrais bien les Rams.
Ouais,
à 3,15.
D'accord avec ça.
Tu l'as dit tout à l'heure, les matchs de division NFC West. Est-ce que les Seahawks à 4,10
Ouais, vas-y, on est YOLO.
C'est YOLO, hein, les Seahawks à 4,10.
Et on finit avec les Panthers parce que Jameis Winston aura fait 4 interceptions.
Les Panthers et Jameis Winston ? Attends, ils sont où ?
Non, les Panthers profitent des 4 interceptions de Jameis Winston avec les Saints.
Ah oui, ok, j'étais perdu. Ouais, mais du coup, les Panthers, ils sont à 2,55.
Ouais, mais bon, je sais pas, je trouvais ça rigolo, moi.
Moi, si tu voulais du vrai YOLO...
Si tu veux du vrai YOLO, il y a...
Pourquoi les Panthers, ils sont si bas, c'est fou, ça.
Ouais, les Panthers sont assez bas.
Respectez-les, Unibet.
Je suis assez
alors d'accord. Que les Titans sont à 4,75, OMG. Bon, face aux Dolphins, ok. Mais 4,75 les Titans ? Attends, juste pour voir, je clique.
Ouais, allez, on met les Titans. C'est un YOLO ou c'est pas un YOLO ?
Non, mais là, c'est plus un YOLO, là.
Vas-y.
Là, c'est You Only Live Never. Ah la vache. Puisque si tu mets les Titans à 4,75, on le rappelle, hein, quand vous pariez, surtout là, quand on fait le YOLO, c'est de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Faites attention.
De l'argent que vous allez perdre.
Ouais. Voilà. Mais dans un monde parallèle où les Titans gagnent, donc je vous redonne et je vous donne la conclusion, je vous redonne le total. Les Buccaneers face aux Falcons à 1,95, les Broncos face aux Chargers à 2,03, les Bills face aux Chiefs à 2. Ça, on a gardé. On a rajouté les Rams à 3,15 face aux Ravens. On a rajouté les Seahawks à 4,10 face aux Niners. Déjà là, bon, pourquoi pas. Mais on a rajouté les Titans face aux Dolphins à 4,75 et la messieurs-dames pour une mise de départ de 5 euros. Vous avez des gains potentiels de 2610,14 euros. Voilà. Je pose ce chiffre-là. Je l'ai dit, je le répète. Vous faites attention quand vous pariez cette somme. Vous faites attention quand vous pariez les Titans face aux Dolphins. Mais si ça vous fait marrer et que vous voulez tenter, écoutez, c'est posé là. Qu'est-ce qu'on fait avec 2610 euros, Victor ? Qu'est-ce qu'on a à Paris ?
À Paris, je ne sais pas.
Moi, je pense qu'à Paris, t'as un bon 80 mètres carrés dans le dixième, tu vois. Je pense que t'es pas mal.
Ouais. Bon, après, à voir, mais oui. Donc globalement, on est assez d'accord que 2600, ça serait beau, mais voilà, jouez avec précaution. Si vous perdez le contrôle, appelez le numéro d'urgence. Hein.
Bien sûr. Tu sais quoi ? On met 1 euro, c'est 522. Voilà.
Ouais, très bien.
Allez, on arrête là. Merci à Unibet de nous fournir ces cotes-là. Et puis, merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés, puisque c'est comme ça qu'on termine le podcast. Merci, Victor, d'avoir été avec moi.
Merci, Raoul. Merci à tous.
On retrouve Touchdown Actu, bien sûr, sur tdactu.com. Ça, c'est pour toutes les infos, tous les podcasts et tous les résumés de matchs. Vous pouvez retrouver Touchdown Actu aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est Twitter, c'est TikTok, Insta, Facebook, bien sûr. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast. Et également, je l'oublie à chaque fois, mais n'hésitez pas à y aller, sur Tipeee. Vous pouvez soutenir le site en vous abonnant ou en donnant de manière... régulière ou irrégulière. En ce moment, il y a les calendriers 2024 qui sont sortis, qui sont superbes comme à chaque fois. Donc, si vous voulez nous soutenir et avoir une petite contrepartie matérielle, n'hésitez pas à y aller. On se retrouve demain. De quoi on parle demain dans la draft, Victor ?
On parle de chasseur de quarterback, on parle de edge rusher.
Ouh, excellent. Et puis, on se retrouvera samedi pour parler fantasy. Dimanche dans le fauteuil, je l'ai dit, l'affiche sur 6 Play, c'est le match entre les Rams et les Ravens, donc sacrée affiche. Et puis, ben, vous retrouvez de toute façon Touchdown Actu partout où vous le voulez. À très bientôt pour une nouvelle semaine de podcast. Ciao, ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.